الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الثاني من شهر شعبان من عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس العاشر في شرح كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. Nous sommes le 7 avril 2019 et nous voici réunis pour le 10e cours de l'étude du livre intitulé مسائل الجاهلية, les pratiques, les coutumes de l'ère pré-islamique. Nous nous sommes arrêtés sur la parole de l'auteur rahimahullah, ittikhad al-suruj al-qubur, parmi les actions et les coutumes des gens de l'ère pré-islamique, le fait de mettre des bougies, des moyens d'éclairage sur les tombes. Ensuite, l'auteur rahimahullah a dit al-mas'alatu thalithatu wa thamanun, la question 83, ittikhad al-quburi a'yada. Les gens de l'ère pré-islamique avaient pour habitude de faire des tombes où les gens étaient enterrés, ce que l'on appelle a'yad. Et a'yad en langue arabe, c'est le pluriel du mot Eid. Et le Eid, d'où l'appellation à la fête, justement, que l'on appelle al-Eid. Cette appellation vient d'un verbe arabe aada ya'oudou, qui veut dire revenir. Et on appelle cette occasion Eid parce que c'est quelque chose qui revient chaque fois, chaque année, qui se répète. Tout comme on appelle toute chose qui se répète régulièrement Eid. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit, par exemple, de faire de sa tombe un Eid. Alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire un lieu de retour constant. Lorsque tu visites sa tombe une fois, alayhi salatu wassalam, et que tu résides à Médine, il ne t'est pas demandé de répéter les visites, de revenir. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wasallam ferme les portes pouvant conduire au shirk, au polythéisme. Et les gens d'autrefois de l'ère pré-islamique, et pas seulement, ceux qui les suivent encore en notre époque, et Allah sait qu'ils sont très nombreux, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils font? يتخذون القبور أعيادا. Ils font des tombes, des lieux de retour constants. Et cela se manifeste sous plusieurs formes. Ils rendent visite à la personne qu'ils estiment, qu'ils aiment, qu'ils pensent être pieuse, proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela les amène à quoi? À s'attacher à eux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit il existe deux sortes de ce que l'on appelle en arabe Eidun. Il y a al-Eid az-Zamani, c'est-à-dire le Eid temporel. Il est en rapport avec le temps, comme Eid Ramadan ou Eid al-Adha, c'est-à-dire Eid al-Fitri, la fête qui vient juste après Ramadan et la fête pendant laquelle il est prescrit de sacrifier un mouton. Ce sont des Eid, c'est-à-dire des choses qui reviennent temporelles, dans le temps. Chaque année, ces choses se reproduisent. Il y a Al-Eid Al-Makani. Il y a ce que l'on appelle Al-Eid, ce vers quoi on va revenir constamment, géographique, c'est-à-dire dans un endroit. On ne parle plus d'un temps, mais nous parlons d'un endroit. Un endroit où les gens reviennent, constamment. Que ce soit de façon annuelle, hebdomadaire ou mensuelle. Chaque année, chaque semaine, chaque mois et même chaque jour. Où les gens se rassemblent pour l'adoration. C'est à ce titre que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La taj'alu qabri ida. » Ne faites pas de ma tombe un Eid. Ne revenez pas constamment dans ma tombe. Qui est-ce qui dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire alors de ceux qui reviennent, non pas à sa tombe à lui, constamment, mais à la tombe de gens qui sont en dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans le moindre doute. Le prophète alayhi salat wa sallam dit « Wassallu alayya haythu kuntum, fa inna salatakum tablughuni » et faites des prières sur moi où que vous soyez, car vos prières m'atteignent, elles me parviennent. Donc tu n'as pas besoin de dire à celui qui se rend à la ville de Médine, va saluer le prophète alayhi salat wa sallam de ma part. Toi-même où tu es, quand tu dis sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal fait en sorte que cette prière et cette salutation lui arrivent. Alayhi salatu wa sallam. Ainsi, le fait de répéter plusieurs fois la visite d'un endroit de cette façon est susceptible d'ouvrir la porte au shirk. Pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne de ne pas avoir ces agissements qui font partie des agissements des gens de l'ère pré-islamique. Ils agissaient par ignorance et ils faisaient ces choses à cause desquelles ils tombaient au final dans le shirk, dans le polythéisme. Comme ceux qui, à notre époque, parmi les gens du soufisme ou autres, reviennent dans les tombeaux pour les solliciter en dehors d'Allah, ou pensent qu'il y a une baraka particulière à faire une prière dans cet endroit, à côté de la tombe de un tel et un tel. Or, c'est complètement faux. Ça n'a pas de fondement dans la religion d'Allah. Alayhi salatu wassalam. Et souvenez-vous, la veille, nous avions dit que Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a aperçu Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui était en train de prier sans le savoir à côté d'une tombe. Umar a crié Al-Qabr, Al-Qabr, la tombe, la tombe. Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum connaissaient l'importance et la dangerosité de ce sujet. C'est pour ça qu'il ne laissait aucune occasion d'interdire quelque chose de ce genre sans le faire. Le cheikh Salih al-Fawzan a dit « وَلَمَّا سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ نَظَرَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةِ اسم موضع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم أي اجتماع يجتمعون فيه؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا وفاء ولا فيما لا يملك ابن آدم. Le prophète عليه الصلاة والسلام, on l'avait vu en détail dans Kitab al-Tawhid, a été interrogé par un homme qui avait fait le vœu de sacrifier un chameau dans un endroit appelé Bouana. Il est allé voir le prophète alayhi salat wa salam et lui a fait part du vœu qu'il a formulé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, y avait-il dans cet endroit une des idoles de la jahiliya qui était adorée? L'homme répondit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, y avait-il alors un Eid parmi leurs Aïad, le pluriel de Aïd, c'est-à-dire une réunion particulière dans leur religion, dans cet endroit-là? L'homme dit non. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dit, alors accomplis ton vœu. Car on n'accomplit pas de vœux, c'est-à-dire on ne met pas en pratique ce sur quoi on s'est engagé avec Allah. Parce que le vœu, c'est le fait de te rendre obligatoire quelque chose pour Allah, dans le but de te rapprocher de lui. Tu prends un engagement verbal, tu as alors l'obligation de l'accomplir. Le prophète, alayhi salatu wasalam, avant de lui dire « accomplis ce vœu », lui a posé ces questions parmi lesquelles « y avait-il dans cet endroit un Eid ? Est-ce que ces gens avaient l'habitude de revenir, de se réunir dans cet endroit ?» Lorsque l'homme dit non, le prophète, alayhi salatu wasalam, lui dit « alors tu peux le faire. » Ainsi, il n'est pas permis, nous dit le cheikh Salih al-Fawzan, de spécifier un endroit dans lequel on va constamment revenir pour l'adoration. Ceci car Le prophète alayhi salat wa salam a dit Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. La terre entière a été rendue pour moi masjid, un lieu de prière. Donc après cela, tu ne dois pas sans preuve dire à tel endroit il est bon de prier. À tel endroit il est bon d'aller faire des aumônes, d'aller faire des bonnes actions. Si cela n'a pas de fondement dans le Coran ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur rahimahullah dit ensuite المسألة الرابعة والثمانون la question 84 الذبح عند القبور l'immolation près des tombeaux. L'immolation, c'est le sacrifice de la bête. Et الذبح, c'est une adoration réservée à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لعن الله من ذبح لغير الله. Qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour un autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et le dhabh, le sacrifice, doit être fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala dans deux choses. La première chose, c'est at-tasmiya, le fait de citer le nom d'Allah. En sacrifiant la bête, tu ne dois citer que le nom d'Allah, azza wa jal. Et la deuxième chose, c'est la raison dans ton cœur pour laquelle tu fais ce sacrifice. Ça doit être uniquement pour Allah, azza wa jal. Il est donc possible, comme on l'avait vu dans Kitab al-Tawhid, qu'une personne dise Bismillah en ayant sacrifié pour un autre qu'Allah. Parce que son intention dans le cœur était de se rapprocher de la personne enterrée. Wal'iyadu billah, par exemple. Et il est possible que la personne cite complètement le nom d'un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Prie pour ton Seigneur et sacrifie, c'est-à-dire pour lui seul. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dans le sens rapproché des versets, il ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens: Mon Seigneur m'a guidé vers le droit chemin, la religion de droiture, celle de Ibrahim qui était dévoué à Allah. Il ne faisait pas partie des polythéistes, des associateurs. Dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort, toutes ces choses sont vouées exclusivement à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a aucun associé, c'est ce qu'il m'a ordonné, je suis le premier des soumis. Donc, cette attitude fait partie de ce que faisaient les gens de l'ère pré-islamique, le fait de sacrifier près de la tombe. La personne n'arrive pas à avoir d'enfant, on lui dit... va faire un sacrifice à côté de la tombe d'un tel. Il va après te faciliter telle et telle chose. Wal'iyadu billah. Wallahu musta'an. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit وَالذَّبْحُ عِنْدَ الْقُبُورِ إِذَا كَانَ تَعْظِيمًا لِهَذَا أَوْ إِذَا كَانَ تَعْظِيمًا لَهَا فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبَرٌ. Le jugement du sacrifice près de la tombe. Si le sacrifice a été fait par vénération pour la personne dans cette tombe, alors c'est du shirk akbar. C'est du shirk akbar. Par cette action, la personne sort de l'islam. Wal'iyadu billah. Wa idha kana ta'ziman lillah, walakin fa'alahu 'inda al-qabri yadhunnu annahu mashru' fa hadha bid'atun wa wasilatun ila shirk. Et si la personne sacrifie une bête près de la tombe en vénération pour Allah. Vous voyez la différence? Elle dit je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais près de la tombe. Alors ceci est une innovation et un moyen menant au shirk. Il n'est donc pas permis de sacrifier près des tombes, ni d'avoir de croyance qu'il y a une quelconque baraka bénédiction auprès des tombes. Il y a aussi des gens qui sacrifient pour les djinns. Ils sacrifient pour les djinns. Souvent, lorsqu'ils achètent une maison, une voiture, ils construisent une maison, ils font un sacrifice devant la porte et ils disent « Les djinns pour lesquels j'ai sacrifié ne m'attendront pas d'un mal. » Moi-même qui vous parle, j'ai vu un jour une voiture dans un pays ensanglantée, du sang partout sur la voiture. Et la voiture était toute neuve. Trouvant cela étrange, j'ai demandé à une personne qui m'a dit « Il vient de l'acheter pour se protéger » des djinns, il a fait ce sacrifice. A'udhu billah. Tu achètes une voiture et tu vends ton djinn à la place. Allahu musta'an. L'auteur rahimahullah a dit Al-mas'alatani al-khamisatu was-sadisatu wath-thamanun. Les deux questions suivantes, 85 et 86. At-tabarruku bi-athar al-mu'azzamin kadar al-nadwa وافتخار من كانت تحته تحت يده بذلك كما قيل لحاكم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. L'auteur rahimahullah nous dit, le fait de faire ce que l'on appelle at-tabarruk, wa huwa talab al-baraka, le fait de demander la baraka devant auprès des restes des gens vénérés, des personnalités, ça peut être des prophètes, ça peut être des gens pieux, ça peut être des rois de l'histoire, etc. Ils ont laissé des traces de leur existence, des objets, les endroits où ils vivaient, par exemple, etc., etc. Le fait de prendre la baraka, ou de croire prendre de la baraka plutôt, de ces choses-là. Il cite en exemple ce que l'on appelle Darun Nadwa. Darun Nadwa, la maison de Nadwa, c'était l'endroit de réunion des gens de Quraysh. Les grands de Quraysh, qui se consultaient mutuellement, avaient pour habitude de se réunir dans cet endroit, la maison Nadwa. Et c'est là qu'ils traitaient les grandes questions de la communauté, etc. Et lorsque le temps est passé, les gens de la Jahiliya se vantaient de cet endroit. Et certains, lorsqu'ils en avaient les clés ou la responsabilité, c'était pour eux quelque chose de particulier. Et le compagnon Hakim ibn Hizam, radiyallahu ta'ala an, l'a vendu à Muawiyah, radiyallahu ta'ala an. Et les gens de Quraysh lui ont dit « Bi'ta makramata Quraysh » « Tu as vendu la source de l'honneur de Quraysh. » Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit « Zahabatil makarim illa taqwa » « Toutes les sources d'honneur, de fierté sont parties sauf la piété. » Regardez les sahaba radiyallahu anhum, comment ils sont attachés à Allah. Ils ne s'attachent pas à un objet. Ils ne vénèrent pas un endroit, un objet, quelque chose qu'un ancien, aussi pieux soit-il, possédait. Ce qu'ils vénèrent, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout est parti, toutes les sources d'honneur, sauf la taqwa. C'est là qu'on retrouve notre honneur, notre fierté, nous les croyants. Et cela est une cause, le fait de vénérer ce genre de choses, a été une cause de shirk billah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah nous dit kama fa'ala ash-shaytan ma'a qawmi Nuh, comme le shaytan a fait avec le peuple de Nuh, dont beaucoup d'entre vous connaissez l'histoire, comment le shirk est apparu sur terre lorsque les cinq personnes pieuses sont mortes dans une période rapprochée. Les gens qui étaient attristés de ce décès ont commencé à mettre à leur effigie des statues. Et à la fin, elles ont été adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, toutes ces choses-là sont interdites dans la religion. Pourquoi? Pour fermer la porte au shirk. Certains vont dire, quant à moi, je ne fais pas de shirk. Regardez ce que dit le Cheikh Al-Fawzan. Il dit, en réponse à ceux qui disent « Nous autres, à notre époque, nous avons compris cela. » Et on ne va pas utiliser ces objets ou ces endroits ou ces souvenirs pour le shirk. Le shirk dit « Tu ne dois pas regarder uniquement devant toi, mais tu dois voir loin. » Comme au peuple de Nuh, alayhi salam, quand ils ont fait ces statues, ils n'avaient pas l'intention de les adorer en dehors d'Allah ou de leur demander ce que l'on ne doit demander qu'à Allah. Mais Shaitan le voit loin. Il attend, il est patient dans son dalel, dans son égarement. Un temps est arrivé où la génération d'après les a adorés en dehors d'Allah. Donc tu ne dois pas dire pour ce genre de choses, je suis préservé, je connais, je sais. Toi tu sais, ceux qui vont venir après toi, tu sais pour eux. Tu es sûr qu'ils vont connaître le tawhid que toi tu as connu. Et regardez au jour d'aujourd'hui, il y a plein d'endroits où l'on retrouve des vêtements de telle personne, la maison de telle personne, où les gens vont se frotter sur les murs pour justement talabul baraka, pour demander la baraka. Wal'iyadu billah. Et cette réponse de Muawiyah, de Hakim ibn Hizam, nous dit le Cheikh al-Fawzan, était la réponse juste conforme à la parole d'Allah Azza wa Jal, inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous, chez Allah, c'est le plus vieux. Ce n'est pas celui qui possède telle et telle chose. L'auteur, rahimahullah, dit, al-masa'il al-sabi'atu wa-thaminatu wa-tasi'atu wa-thamanun wa-tis'un. Les quatre questions suivantes sont les 87, 8, 9 et 90. Al-fakhru bil-ahzab, bil-ahsabi, wa-ta'anu fil-ansab, wa-listisqa'u bil-anwa, wa-niyahatu ala al-mayyit. Les gens de l'ère pré-islamique avaient l'habitude de faire ces quatre choses. La première, on l'appelle al-fakhru bil-ahsab, le fait de se vanter de sa généalogie, de dire je suis de telle famille, de telle tribu. Moi, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis. Je suis de telle tribu, de telle famille, de tel endroit, de tel village. On a fait telle chose, mon grand-père a fait telle chose, je suis meilleur que les autres. Les autres sont la classe basse. La deuxième chose, at-ta'nu fil ansab, c'est le fait de dénigrer la lignée des gens. Toi, tu viens de telle tribu. Ta tribu n'a pas de poids. Ta tribu n'a pas de parole. Tu viens de tel village. Vous n'avez pas de valeur. Ou alors, on ne sait même pas qui est ta famille en réalité. Et ce genre de choses. Le fait de dénigrer les gens par leur famille, par leur origine, par leur lignée. C'est ce que faisaient les gens de la Jahiliyyah. La troisième chose, al-istisqa ou bil-anwa, le fait d'avoir pour croyance que lorsque la pluie tombe, elle est tombée par la cause de telle étoile qui a bougé, qui a changé de place. Et quatrièmement, al-niyahatu ala al-mayyit, les lamentations sur le mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Arba'un fi ummati min umuri al-jahiliyyati la yatrukunahun. Subhanallah. Il existe quatre choses dans ma communauté, il nous dit, qu'ils ne délaisseront pas. Les gens de la communauté, qu'ils ne délaissent pas. Et il cite ces quatre choses. Quant à la première, le fait de, comme nous l'avons dit, de se vanter de ses grands-parents, de se vanter de sa famille, tout cela fait partie de la religion de la Jahiliyyah, des gens de l'ère pré-islamique. Le Cheikh Fawzan nous dit, « لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ فِي مِنَا » Ces gens-là se réunissaient à Mina. Mina, c'est un endroit de la Mecque où on accomplit le pèlerinage. « وَبَدَلَ أَنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ » يَذْكُرُونَ مَا فَاخِرَ أَبَائِهِمْ. Et lorsqu'ils étaient à Mina, au lieu d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils traitaient comme sujet? Ils parlaient de la fierté de leur père et de leurs ancêtres et de leurs grands-pères au lieu de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, lorsque vous avez accompli vos rites, en parlant du pèlerinage, فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ ou achad dhikra, évoquez Allah comme vous évoquez vos pères. mais plus encore. L'obligation est donc d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'avoir une bonne famille, une bonne, ne te préserve pas de l'enfer, ni de la colère d'Allah. Et tu as des exemples dans le Coran. Ibrahim alayhi salam, regardez qui est son père, un mushrik finnar. Nuh alayhi salam, regardez qui est son fils, un mushrik finnar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, regardez qui est son oncle, un mushrik finnar. La famille, le clan, ne te sert à rien chez Allah. Il n'y a que la piété. Le fait de dénigrer les origines des gens aussi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. » Ô vous les gens, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. « Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. » Et on a fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. « Inna akramakum indallahi atqakum. » Le plus noble d'entre vous chez Allah est le plus pieux. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a prononcé le discours d'adieu dans le pèlerinage, il a dit, toute la jahiliya est en dessous de mes pieds, je l'ai écrasée. Il n'y a pas de différence entre un blanc, un noir, entre un arabe, entre un non-arabe, sauf par la taqwa, sauf par la piété. La troisième chose, al-istisqa bil nujum ou bil anwa. C'est le fait de croire que la pluie est tombée par l'effet ou la cause de l'étoile qui a bougé, qui a changé de position. Et ça, c'est une croyance que l'on retrouvait chez Quraysh. Et lorsque la pluie tombait, il disait « Mutirna binaw ikada ». Nous avons reçu la pluie par l'étoile untel. Wa hadha shirkun billah asghar. Et c'est du polythéisme mineur si la personne croit que c'est une cause. Par contre, si la personne croit que l'étoile a fait tomber la pluie, là c'est du polythéisme majeur. Et enfin, an-niyahatu 'ala al-mayyit, les lamentations sur le mort. Et les lamentations sur le mort peuvent se faire de façon verbale, elles peuvent se faire de façon physique. Verbalement, comme la personne qui lève sa voix et qui crie à côté du mort, en signe de non-acceptation de ce qu'Allah a décidé. Et très souvent, lorsqu'il y a des morts dans des endroits, et souvent dans des villages où les gens ne sont pas connaisseurs des règles d'Allah Azza wa Jal, ils disent « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mon fils ?» Regardez l'injustice. Ça veut dire que pour cette personne, si c'est le fils de quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Voilà, a'udhu billah. Allah Azza wa Jal sait quand est-ce que tu dois mourir. Il sait pourquoi et comment tu vas et tu dois mourir. Et toi, d'où tu dis comment, pourquoi moi? Ya subhanallah, tu as atteint le niveau de piété le plus haut. Tu es allié d'Allah, tu es élu par Allah pour te plaindre de cette façon. Et aussi, ça peut se faire à travers les cris où l'on voit dans certains endroits, lorsqu'il y a un mort, ils amènent des gens spécialisés dans ce haram. Et ils viennent pour crier à côté de toi et te rendre fou dans les villages. Ils viennent à côté et ils crient, ils pleurent de toute leur force pour que toi aussi tu cries, tu pleures. Ya subhanallah! Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et vers lui on retournera. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, vous allez entendre la menace du prophète alayhi salatu wassalam. Ça peut être aussi physiquement, comme ceux qui se déchirent les vêtements, qui s'arrachent les cheveux, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: An-na'ihatu idha lam tatub qabla mawtiha. La femme qui se lamente. C'est pareil pour l'homme. Mais pourquoi on cite la femme? Parce qu'en général, c'est elle qui le fait plus que les hommes, de par son émotion. La femme qui se lamente, si elle ne se repent pas avant sa mort, تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ. Elle est réveillée le jour de la résurrection, elle porte en portant une tunique de goudron. Une tunique en goudron. Le cuivre fondu ou du goudron. wa dir'un min jarab. Elle portera ici, dir', c'est ce que l'on porte sur la poitrine, comme la cotte de maille. Vous voyez l'armure là qu'il porte à la guerre, ça, ça s'appelle dir' aussi. La chose que l'on porte sur la poitrine, elle sera en jarab, la gale, la maladie de la gale. Wal'ayyadu billah. الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى أجي dans l'explication ici. وهذا جزاء من جنس العمل. C'est une rétribution qu'Allah donne proportionnelle à ce que la personne faisait. Pourquoi? Parce que cette personne qui se lamentait se déchirait les vêtements. N'est-ce pas? Les vêtements qu'elle s'est déchirés pour montrer son mécontentement devant Allah, Allah Azza wa Jal lui donnera alors des vêtements de cette façon. Elle n'a pas voulu du bienfait d'Allah de ses vêtements. Voici ce qu'Allah Azza wa Jal va lui donner. Et le Cheikh nous dit, le fait de pleurer le mort, il n'y a pas de problème dans ça. Pleurer naturellement, ce n'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré le décès de son fils Ibrahim, qui est mort en bas âge, au point de dire « Inna al-ayna tadma'a » L'œil pleure, wal qalba yahzan, le cœur est triste, wala naqulu illa ma yurdi rabb, et on ne dit que ce qui satisfait le Seigneur. Regardez. Oui, on pleure. Oui, on est triste, et en même temps, on ne dépasse pas la limite. Dans nos paroles, on ne va dire que ce qu'Allah aime. Wa inna li bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Et nous sommes tristes de nous séparer de toi, ô Ibrahim. Tahina. La vie continue. Hada huwa al-muslim. Voici le musulman. Donc ces quatre choses font partie de la jahiliya. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, al-mas'alatu al-hadiyatu wa tis'oun anna ajalla fada'ilihim al-baghyu wa qad zakara Allahu fihi ma zakar. Parmi ceux qu'il voyaient méritoire les gens de l'ère pré-islamique, c'est la transgression. Le fait de transgresser et d'être injuste envers autrui était pour eux une source de fierté. Et était pour eux une des meilleures sources de fierté. Ils s'en vantaient. Ils se vantaient d'avoir opprimé telle et telle personne. Ils se vantaient d'avoir pillé les biens. Ils se vantaient d'avoir violenté telle personne. Ils se vantaient de l'injustice qu'ils faisaient aux gens, et ils faisaient même des concours entre eux. Moi j'ai fait ça, et toi, moi j'ai fait telle chose. Tu n'as rien fait, moi je leur ai fait telle et telle chose. Et il y a des gens à notre époque qui agissent ainsi. Ils se vantent de faire de l'injustice aux gens. C'est quelque chose de vraiment incroyable, mais vrai. Que ce soit, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, le fait de faire couler le sang des gens, de porter atteinte à leur honneur, de s'accaparer leurs biens, ces gens-là s'en vantaient dans leur poésie, dans leurs propos qu'ils tenaient. Allah Azza wa Jal a alors interdit tout cela en disant notamment « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » dit « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes apparentes et cachées. » والإثم les péchés والبغي بغير الحق la transgression injuste وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان et que vous associez à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون et que vous dites sur Allah ce que vous ne connaissez pas. Et nombreux sont les versets où Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths aussi ont interdit la transgression envers les biens d'autrui ou l'honneur ou le sang d'autrui de façon injuste. L'auteur rahimahullah dit al-mas'alatu thaniyatu wa tis'un, la question 92. Anna ajalla fada'ilihim al-fakhru walau bihaqqin fanuhiya an. Il faisait aussi partie des choses les plus méritoires pour eux. La vantardise. Ils aimaient se vanter. J'ai fait telle chose, j'ai telle chose. Nous avons fait telle chose. En telle année, on t'a nourri. on t'a donné telle chose, ou il fait du bien aux gens, il dit je t'ai fait telle chose, ou il fait quelque chose, il dit c'est moi qui a fait ça. Le fait de se vanter, Allah subhanahu wa ta'ala a tout simplement interdit aux musulmans de se vanter. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a enseigné aux gens qu'il est le meilleur des gens, qu'a-t-il dit ? Ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyamati wa la fakhr. Je suis le maître ou le meilleur des enfants d'Adam le jour de la résurrection sans vantardise. C'est-à-dire, je le dis sans vantardise. Il faut bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il est le meilleur. Alors il nous l'enseigne. Mais en même temps, il nous dit qu'il ne le fait pas pour se vanter. Il le fait pour qu'on le sache, pour qu'on connaisse sa valeur, pour qu'on le suive, pour qu'on lui obéisse. De ce point de vue-là, il doit nous le dire, parce qu'il est notre enseignant. Mais sans se vanter, sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète ne se vante pas, alayhi salatu wa sallam, alors que dire de nous autres ? L'auteur rahimahullah continue. المسألة الثالثة والتسعون. La question 93. أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم. فذكر الله فيه ما ذكر. Le fanatisme. Il nous dit le fanatisme de la personne pour son groupe, que ce groupe soit sur le vrai ou sur le fond, était pour eux quelque chose d'indispensable. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr dit, c'est-à-dire que le fait d'être fanatisé pour leur groupe, c'était pour eux une affaire classée. Pas de discussion sur ce sujet. Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans plein de domaines. On le voit dans plein de domaines. Ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être le fanatisme envers la tribu, ça peut être le fanatisme qui fait qu'on refuse que telle personne se marie avec telle personne parce qu'elle n'est pas du même endroit, parce qu'elle n'est pas de la même famille, elle ne porte pas le même nom. Le fanatisme pour le manhaj al-munharif, pour la voie égarée. Le fanatisme pour un cheikh, le fanatisme pour une personne et toutes ces choses-là. Ces gens-là, les gens de Quraysh, pour eux, le fanatisme de ne pas changer d'opinion, de rester sur ce sur quoi ils sont, même si c'est faux, c'est une affaire classée. Si le haq est avec nous, ou si le faux est avec nous, l'essentiel c'est que moi je suis avec mon groupe. Wal'iyadu billah, hadhihi jahiliya. C'est de la jahiliya ça. Allah Azza wa Jal nous demande de suivre le Coran ou le Sunna, de suivre le Dalil, de ne pas rester ignorant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَأَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُ. Que l'aversion d'un peuple ou que l'aversion que vous avez pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Le fait d'avoir de l'aversion pour un peuple et donc du fanatisme pour le sien est une chose qui peut conduire justement à l'injustice. Cheikh Al-Fawzan nous dit ay la yahmilukum burdu qawmin ala alla ta'dilu fi haqqihim walau kanu a'da'akum. Que la version que vous avez pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste envers eux même s'ils sont vos ennemis. Ces gens-là avaient tout simplement du fanatisme, wal'iyadu billah. Et l'obligation, nous dit le cheikh, est d'être juste envers sa propre personne, envers ses proches, ses amis et même ses ennemis que l'on déteste. Pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ansur akhaka zaliman aw mazlouma. Porte secours à ton frère, oppresseur soit-il ou oppressé. Les compagnons ont dit « Ya Rasulallah, nansuruhu idha kana mazlouma, fa kayfa nansuruhu idha kana zalima ?» On lui porte secours s'il est injuste, s'il est victime d'injustice. Mais comment lui porter secours s'il est injuste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tamna'uhu ani dhulm, fa dhalika nasru. » Tu l'empêches de faire l'injustice. Et cela, c'est le secours que tu lui apportes. Et à l'époque de la Jahiliya, il disait « Ansur akhaka zaliman aw madhluma. » Secours ton frère, qu'il soit injuste ou victime. Mais il le comprenait dans le sens où reste tout le temps avec lui, sois toujours d'accord avec lui, défends-le, même s'il est dans le faux. Quand le prophète alayhi salat wa salam est arrivé, il leur a dit Ansur akhaka zaliman aw madhluma, comme eux le disaient, mais il va rétablir le vrai sens de cette parole. Porte secours à ton frère, injuste, victime soit-il, ou injuste. Et là, les compagnons vont lui demander, mais comment secourir alors l'injuste? Et là, le prophète, alayhi salat wa salam, lui dit, tu l'empêches de faire l'injustice. Et des fois, il y a des gens qui font de l'injustice à leurs frères. Et ils ne trouvent personne pour les secourir, pour leur empêcher leur injustice, de te mettre face à lui et de lui dire, taqillah hadha dhulm, uskut. Et taqillah hadha dhulm, la taf'al. Crains Allah, c'est de l'injustice, ne fais pas. Ça, c'est du secours pour ton frère, à condition que ça soit dans le haqq, dans le chemin d'Allah et dans ce qu'Allah a prescrit. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, dit Al-mas'alatu al-rabi'atu wa tis'un, la question 94. Anna min dinihim akhdha al-rajuli bi jarimati ghayri. Fa anzal Allah وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Faisait partie de leur religion à ces gens de punir une personne pour le crime d'une autre. Quelqu'un fait un crime, la personne va se venger sur des gens. La personne ne va pas reprendre son haq, son droit sur le criminel, mais plutôt elle va porter atteinte, par exemple, à des gens qui sont proches. Vu que tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal en faisant du mal à un proche, à toi. Mais qu'est-ce qu'il a à voir, lui? Il n'a rien à voir. Ou alors, je vais en échange, je vais attaquer 10 personnes. Ça, c'est de la jahiliya. Hadihi jahiliya. Comme tous ces gens-là qui font des crimes à notre époque et qui disent je le fais pour me venger de telle et telle chose. Ensuite, il va et il tue des innocents qui n'ont rien à voir et il prétend défendre une cause. Hadihi jahiliya. Alors si on le fait au nom de l'islam, là c'est encore pire. C'est encore pire parce que l'islam n'a rien à voir avec ça. L'islam ne te dit pas de punir une personne qui n'a rien à voir avec le crime du criminel. Ces gens-là étaient ainsi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Et aucune âme ne portera la charge d'une autre. Aucune personne ne prend la responsabilité d'une autre. Ce que tu as fait, tu en es responsable et pas quelqu'un d'autre. Pour justement annuler toutes ces pratiques des gens de l'époque pré-islamique et dans lesquels ils sont suivis malheureusement. Al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah nous dit فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ. Le résumé est de dire qu'il s'agit d'une règle immense. أَنَّ الْجَرِيمَةَ تَخْتَصُ بِمَنْ فَعَلَهَا وَلَا تَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ. Le crime est rattaché au criminel qui l'a fait et pas à quelqu'un d'autre. L'auteur rahimahullah dit al-mas'alatu al-khamisatu wa tis'un. La question 95. Ta'yiru ar-rajuli bima fi ghayrihi. Faqal a'ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliya. Le fait de dénigrer une personne pour quelque chose qui n'est même pas en plus dans cette personne. Et il fait référence à l'histoire de Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit concernant un des nobles compagnons, en l'interpellant, il lui a dit « Yabna Saouda, oh le fils de la noire, sa mère est noire, oh le fils de la noire, parce que sa mère est noire. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « A'ayyartahu bi ummi, tu le dénigres par sa mère. Inna kamru'un fika jahiliya, tu es une personne dans laquelle il y a de la jahiliya. » Allahu Akbar. Le prophète l'a éduqué sallallahu alayhi wa sallam et tous les sahaba sont des hommes pieux. Et quand vous traitez ce genre de sujet, vous vous arrêtez au hadith. Et vous ne faites pas comme les gens de l'égarement qui s'étalent après, jusqu'à dénigrer Abu Dharr abadan, hada dalal, dalalun azim. C'est un égarement évident. Nahnu nata'allam. Nous, on apprend de ces récits que il est interdit de dénigrer quelqu'un. Et il est interdit de dénigrer quelqu'un pour une chose aussi qui n'est même pas en elle. Et le reste, as-sahaba kulluhum radiyallahu anhum. Tous les compagnons, Allah en est satisfait. Subhanahu wa ta'ala, seulement ils ne sont pas en faillite. L'auteur, rahimahullah, dit al-mas'alatu sadisatu wa tis'un. La question 96. الافتخار بولاية البيت أي البيت الحرام فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. C'est le fait de se vanter d'être le responsable d'avoir la garde de Al-Bayt. Al-Bayt, c'est la maison d'Allah, la maison sacrée. Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens rapproché du verset, ou des versets, tout simplement pour résumer, Allah Azza wa Jal a blâmer ceux qui se sont vantés. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidahullah a dit que parmi les questions de la Jahiliya, le fait qu'ils se vantaient d'être les gardiens de la maison sacrée, les organisateurs de ce qui s'y passe ou de ce qui se passe autour de la maison sacrée, notamment le pèlerinage, le fait d'abreuver les pèlerins, on ne doit pas se vanter de cela. Hada fadlun min Allah. C'est un bienfait qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui reçoit le bienfait d'Allah, azza wa jalla, surtout ce genre de bienfait, ne doit pas se voir meilleur, méritant, et les autres non méritants. Mais plutôt, il remercie Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit, « Fahum badalan min an yu'minu bil rasuli wa bil kitabi wa yattabi'un » Ces gens-là, au lieu d'avoir eu foi au prophète, au livre et de le suivre, yaftakhiruna bi'ilmihim fil bayt, ils se vantaient de la connaissance qu'ils avaient de la maison sacrée, le Kaaba, le Masjid al-Haram. Et ils pensaient que cela leur était suffisant pour ne pas suivre le livre et la sunna, alors que non. La personne ne doit pas se contenter ou se suffire d'une action qu'elle a faite en se disant « j'ai fait telle chose, j'ai telle chose ». Surtout, ne pas croire qu'avoir fait une bonne action te suffit de telle sorte que tu n'aies plus besoin de suivre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur, rahimahullah, a dit « Al-mas'alatu sabi'atu wa tis'un. La question 97. Al-iftikharu bi kawnihim dhurriyat al-anbiya. Ils se vantaient du fait qu'ils étaient la descendance des prophètes. De qui on parle? Banu Israël. Banu Israël. Il se vantait, nous sommes la descendance de tel et tel prophète, et tel prophète, et tel prophète, et tel prophète. Combien ils en ont tué de prophètes? فَأَتَى اللَّهُ بِقَوْلِهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Azza wa Jal a répondu à cette vantardise lorsqu'il disait: nous sommes les enfants de tel prophète, la descendance de tel prophète, ça ne te fait rien chez Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne lui obéis pas, si tu n'es pas pieux. Il disait: nous sommes la descendance de tel prophète. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, dans le sens rapproché du verset, tilka ummatun qad khalat, c'est une communauté qui est passée, laha ma kasabat, à elle ce qu'elle a acquis, wa lakum ma kasabtum, et à vous ce que vous avez acquis. Eux, ils sont passés, ils ont eu ce qu'ils ont eu, ils ont fait les bonnes actions qu'ils ont fait, et vous, vous avez les vôtres, vous êtes séparés. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et vous ne serez pas interrogés sur ce qu'ils faisaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'adresser au peuple de Quraysh et leur dire: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ اِشْتَرُوا أَنفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Ô le peuple de Quraysh, qui est ce peuple? Le peuple le plus noble à l'époque. Et pourtant, regardez ce qu'il va lui dire. Ô le peuple de Quraysh, rachetez vos âmes. Je ne vous serai d'aucune utilité devant Allah. Ya Abbas, amma Rasulillah. Ô Abbas, l'oncle paternel du messager d'Allah. Ya Safiyyatu, ammata Rasulillah. Ô Safiyya, la tante paternelle du messager d'Allah. La ughni ankum min Allah shay'a. Je ne vous serai d'aucune utilité devant Allah. Ya Fatima bint Muhammad, ô Fatima, la fille de Muhammad, salini min mali ma shi'ti, demande-moi de mes biens tout ce que tu veux. La urni anki min Allahi shay'a. Je ne te servirai à rien devant Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, quand tu entends ça, tu regardes le soufi qui te dit Ahmad Tijani yanfa'uk. Ahmad Tijani va t'aider, va te servir. Il te dit Abdul Qadir al-Jilani va t'aider. Il te dit Zainab va t'aider. Il te dit un tel va t'aider. Ahmad Bamba va t'aider. Le prophète alayhi salatu wa salam dit à sa fille: demande-moi tout ce que tu veux, je ne peux rien pour toi devant Allah. C'est fini. Quand tu lis ça, si tu vas... Tu crois en Allah Azza wa Jalla, tu crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces fausses paroles-là, elles ne te servent plus à rien. Et tu ne fais pas ce que faisaient les gens de la jahiliya, yata'assaboun, qui se fanatisaient pour leur idée, pour leur groupe, pour leur... Fanatise-toi pour le Coran et la Sunna plutôt. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذٍ لِلَّهِ. Le jour où aucune âme ne possédera rien pour une autre âme. Je n'ai rien pour toi, tu n'as rien pour moi devant Allah Azza wa Jal. Walakin nas'al Allah Azza wa Jal an yaj'ala hadha al-ijtima' ala ta'allumi tawhidi sababa ijtima'ina fil janna. Innahu rahimun wadud, subhanahu wa ta'ala. Mais on demande quand même à Allah de faire en sorte que cette union dans l'apprentissage de son tawhid soit la cause de notre union fil jannah. Amin ya rab. Naam. L'auteur rahimahullah dit al mas'alatu thaminatu wa tis'un, la question 98. Al iftikharu bis sana'i' ka fi'li ahli ar-rihlatayn ala ahli al-harth. Se vanter pour le métier que l'on a, comme le faisaient les gens des deux voyages envers les laboureurs. Vous avez compris quelque chose? Les gens des deux voyages, qui sont-ils? Les gens des deux voyages dont Allah a parlé dans le Coran. Les ilafi Quraysh. hein, le pacte de Quraysh, où Allah Azzawajal va parler de ces gens qui avaient deux voyages dans l'année. Ils avaient un voyage où ils quittaient la Mecque avec des marchandises. Ils allaient jusqu'à la région du Sham, vers la Syrie. Ils vendaient leurs marchandises là-bas. Ensuite, ou vers le Yémen, le Sham. Ils prenaient d'autres marchandises là-bas et quand ils revenaient chez eux, ils les revendaient. Et avec ces deux voyages-là, Allah les a enrichis. Et ils se vantaient par rapport à ceux qui labouraient la terre. Nous, on voyage deux fois dans l'année. On est des grands commerçants, on fait telle et telle chose, etc. Et Cheikh Abdel Razak al-Badr dit, et même Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, à l'image de ceux qui, à notre époque, se vantent de leur emploi. Moi, je suis responsable de bureau. Toi, tu es quoi? Poubellier? Moi, je suis telle et telle chose. Toi, qu'est-ce que tu es? Tu vends des vêtements usagés au marché? Il n'y a pas un travail à dénigrer. Tant qu'il va chercher sa subsistance et qu'il tend pas sa main vers toi, la pauvre créature, il a de quoi être fier devant Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah Azza wa Jal te facilite, te donne, tu ne dois pas utiliser ce bienfait qu'il t'a donné pour te sentir meilleur que l'autre. Parce que cet autre, il est peut-être meilleur que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah yu'ati dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib. » Allah donne de la dunya à celui qu'il aime, tout comme à celui qu'il n'aime pas. « Wa la yu'ati dina illa liman yuhib. » Il ne donne la religion qu'à celui qu'il aime. Subhanahu wa ta'ala. Donc se vanter de ce qu'Allah t'a donné, c'est la bêtise. L'auteur rahimahullah dit « Al-mas'alatu tasi'atu wa tis'un » La question 99. « Azamatu dunya fi qulubihim » La dunya avait une trop grande valeur dans leur cœur. « Ka qawlihim » وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Comme on le retrouve dans sourate Az-Zukhruf, les ornements concernant ces gens-là qui n'ont pas accepté le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont dit comme parole? Ils ont espéré que ils ont dit qu'ils auraient voulu que ce Coran soit révélé, à une personne riche, ou à une personne qui est, aisée, ou une grande personne. Parce que la dunya avait trop de place dans leur cœur. Ils se disaient, mais comment la révélation peut-elle descendre à quelqu'un qui est pauvre? La révélation doit descendre à quelqu'un qui est une grande personne, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ Et ils dirent, si seulement ce Coran avait été descendu à la رَجُلٍ sur un homme, مِنَ الْقَرِيَتَيْنِ de l'une des deux contrées, عَظِيم, qui est un homme très grand. Et ces deux contrées sont Mecca et Taif. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, حفظه الله نجي وهذا الرجل هو الوليد بن المغيرة في مكة أو حبيب بن عمرو الثقفي وقيل عروة بن مسعود في الطائف يقولون لو كانت الرسالة في أحد هذين الرجلين لكان هذا أليق بالرسالة أما أن تذهب ليتيم فقير وهو محمد صلى الله عليه وسلم فهذا غير لائق عندهم يا سبحان الله il disait ce message aurait dû descendre sur Al-Walid ibn al-Mughira, un des grands personnages de Mecca, ou Habib ibn Amr, et d'autres ont dit Urwa ibn Mas'ud, un des grands de Taif. Pour un message, pour une révélation, ça aurait été meilleur que ça descende sur l'un de ces deux gens-là. Quant à cet orphelin-là, le prophète, alayhi salam, qui en plus est pauvre, il ne convient pas qu'il reçoive une révélation. Voilà comment ils ont rejeté le message d'Allah, mais Allah Azza wa Jalla a dit Wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Et Allah est plus connaisseur d'où il fait descendre son message. L'auteur rahimahullah dit ensuite Al mas'alatul mi'a. On approche de la fin. La question 100. At-tahakkumu 'ala Allah. Kama fi al-ayati as-sabiqa. التحكم على الله, c'est le fait de, comme si qu'il proposait à Allah, Azza wa Jal, de faire plutôt de telle façon et de telle façon. يتحكم على الله عز وجل, يقترح على الله. Comme dans cette parole, lorsqu'ils ont dit, si seulement ce Coran avait été descendu sur tel ou tel. En gros, ils proposent à Allah d'avoir fait plutôt de telle et telle façon. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et ça, c'est une des actions des gens de l'ère pré-islamique. Comment est-ce que tu peux agir ainsi? Ya subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ. Est-ce que ce sont eux qui partagent la miséricorde de ton Seigneur? Qui sont-ils ceux-là? Allah a choisi, subhanahu wa ta'ala, وَرَبُّكَ يَخْلُقُوا مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Là. مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ. سورة الأحزاب. نعم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Il n'appartient pas à un croyant et à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Tu n'as pas à dire, il aurait été mieux que ça se fasse de telle façon, que ça soit légiféré de telle façon. Qui es-tu? Tu n'es personne. Et Al-Sheikh Al-Fawzan, حفظه الله, nous dit, وَلَا يَخْلُ الزَّمَانُ الْآنِ مِمَّنْ هُمْ عَلَى هَذِهِ شَاكِلَ. À notre époque, il y a encore des gens qui sont de cette catégorie de personnes. يَتَدَخَّلُونَ فِي النُّصُوصِ وَيَقْتَرِحُونَ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ils s'immiscent dans les textes religieux. Et ils font des propositions à Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Annahu law kana an-nass kadha aw kana al-hadith kadha wa kadha. Ces gens-là disent, ce texte-là, il aurait dû être plutôt de telle époque ou de telle façon. Ce récit n'est plus valable. Comme hadha sahib al-dalal, qui est fil Imarat, à Dubaï ou à Abu Dhabi, et qui est sorti récemment pour dire que il doute de tous les livres à part le Coran. Même Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, il en doute. Et Sahih Muslim. Et il commence à dire, il y a des hadiths qui ont fait du mal à la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des hadiths, on ne peut pas dire que le prophète a dit ça. Pourquoi? Parce que, comment le prophète peut dire ça, al-Jahil? Anta ma fahimt. Wallahi, anta ma fahimt. Tu n'as pas compris, c'est pour ça que tu as parlé de cette façon. Wallahi musta'an. Il commence par te faire des émissions pour t'expliquer les rêves, et à la fin il te dit que Sahih al-Bukhari, il faut douter. C'est comme ça les gens du Dalal. Ils commencent petit à petit, une fois qu'ils sont connus, gens du public, ils sèment le doute sur les fondamentaux dans la religion d'Allah. Sahih al-Bukhari, c'est le livre le plus authentique après le Coran, à l'unanimité des savants, à l'unanimité des musulmans. Lui, il arrive avec ses goûts et ses couleurs, il dit, non, non, ce hadith on ne le prend pas, c'est pas possible, celui-ci ce n'est pas possible. Allahu Akbar. L'auteur rahimahullah a dit, Al-mas'alatu al-hadiyatu ba'da al-mi'a. La question 101. Izdira'u al-fuqara. Le dénigrement des pauvres. Ils dénigraient les pauvres, ces gens-là. Lorsqu'ils voyaient un pauvre ça n'a pas de valeur. Il est peut-être meilleur que lui, il va peut-être entrer au paradis avant lui, il va peut-être entrer au paradis et lui non. Mais là, dans la dunya, il n'a pas de valeur. Parce que son vêtement n'est pas repassé, parce que son vêtement est déchiré, parce qu'il n'a pas la même voiture que moi, parce qu'il n'a pas la même somme d'argent que moi. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ. Il a dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, n'exclue pas. Ceux n'écartent pas de toi, c'est-à-dire ceux qui invoquent leur Seigneur de matin comme de soir, ce sont les pauvres, car les gens de l'époque pré-islamique lui ont dit, on adhère à ton message si tu rejettes ces gens-là. Cette classe de gens, rejette-les et on te suit. Pareil pour les gens de la sunna. Comme les gens de la sunna ne sont pas à la base des gens qui cherchent la dunya, ils appellent Allah Azza wa Jal avec leurs moyens, avec ce qu'ils peuvent. Et alors les autres se moquent d'eux en disant, regardez, ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout, ils n'ont même pas d'endroit, ou ils n'ont même pas de telle et telle chose. Donc pour eux, parce qu'ils n'ont rien, on ne doit pas les prendre. Ils ont tawhid et la sunna, c'est vous qui n'avez rien. Wallahu musta'an. La question suivante, l'auteur rahimahullah a dit Al-mas'alatu al-thaniyatu ba'd al-mi'a. La question 102. Ramyuhum atba' al-rusuli bi'adam al-ikhlas wa talab al-dunya. Ils accusaient les gens de leur pré-islamique, ils accusaient les messagers, les suiveurs, pardon, des messagers, de ne pas être sincères et de rechercher la dunya. Il disait d'eux, ces gens ne sont pas sincères, ils ne veulent pas Allah Azza wa Jal, ils veulent que la dunya. Et Allah Azza wa Jal, ajabahum biqawli, leur a répondu en disant, ma alayka min hisabihim shay. Tu n'as pas à les juger. Ce n'est pas à toi qu'il incombe de juger. Tu ne sais pas ce qu'ils ont dans le cœur pour dire qu'ils ne sont pas sincères et que leur but est telle et telle chose. Et ça, Allah sait combien tu le vois. Lorsque quelqu'un appelle à Allah, tabaraka wa ta'ala, appelle au haq, afin qu'on ne le suive pas, qu'on ne l'écoute pas, vu qu'on n'a rien à dire sur la voie qu'il suit, on va dire, il n'est pas sincère. Il veut la dunya. Il utilise le din pour remplir ses poches. Il s'enrichit avec le din. Et des accusations de ce genre tout aussi graves les unes que les autres, à la manière des gens de la jahiliya. Wal'iyadu billah. Ils accusaient les pauvres de ne pas être sincères, mais d'avoir adhéré à la foi pour des intérêts mondains. Comme Al Firaun a dit de Moussa. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les suiveurs de Firaun, à Firaun concernant Moussa? Ils ont dit que Moussa et Haroun veulent avoir la suprématie sur terre. Qu'est-ce qu'ils ont dit de Nuh, alayhi salam? Ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum. Il n'est qu'un homme comme vous qui veut prendre le dessus sur vous. Et Allah Azza wa Jal a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écarter ces gens-là en disant وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِدُونَ وَجْهَ. Et n'exclut pas ceux qui invoquent leur Seigneur le matin comme le soir à la recherche de son visage. Allah a dit, ils sont sincères ces gens-là, ne les exclut pas. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.